Chers auditeurs auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les facteurs qui freinent l'augmentation du taux d'accès au courant électrique en RDC? Nous en parlons avec M. Emmanuel Moussouyou, il est coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et des actions publiques, CORAP en sigle. M. Emmanuel, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour M. Tati et merci pour l'invitation.
Si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous rappeler pour prendre la parole en direct par SMS. Envoyez vos questions par les mêmes numéros, c'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de M. Arafat Chamuta qui a écrit depuis la ville de Lubumbashi. Selon cet internaute, la mauvaise politique de gestion dans le domaine énergétique est le facteur principal qui freine l'augmentation du taux d'accès à l'énergie électrique. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Julie Fezabongonda et Grâce Vezolo réalisent cette émission. Jean-Noël Mokondo est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de notre magazine de fêtes société Okapi Service.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La CORAP estime que 10 ans après la promulgation de la loi portant sur la libéralisation du secteur de l'électricité, la RDC devrait atteindre plus de maturité, être pragmatique et agir avec beaucoup de responsabilité face aux différents problèmes énergétiques dans un communiqué publié en juin dernier. 10 ans plus tard seulement, 7% des ménages ont accès à l'énergie électrique en milieu urbain et 3% des ménages en milieu rural. Et pourtant, le chef de l'État a promis à la population congolaise d'atteindre au moins 40% du taux d'accès au courant électrique d'ici 2028. Quels sont les facteurs alors qui freinent l'augmentation du taux d'accès à l'énergie électrique en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Monsieur Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la CORAP. Monsieur Emmanuel, cette problématique a fait l'objet d'un forum qui a été organisé par votre institution.
Alors, merci beaucoup. Effectivement, nous venons d'un grand forum qu'on a appelé le Forum National de la Société Civile sur l'énergie, qui a eu lieu du 20 au 23 août 2024. Pourquoi on a organisé ce forum? Déjà, il faut dire que c'était la deuxième édition. La première avait lieu il y a 5 ans, en 2019. Et c'était un forum très important parce que les résolutions de ce forum, aujourd'hui, on peut voir que plusieurs de nos recommandations ont été prises en compte, dont, entre autres, la mise en œuvre ou l'opérationnalisation de certaines institutions comme l'ARE et l'ANSER. L'ARE, c'est l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ou de l'électricité. L'ANSER, c'est l'agence nationale pour l'électrification en milieu rural et périurbain. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs autres mesures qui ont été prises. Mais la vérité, c'est que 5 ans après notre première édition du forum, 10 ans après la loi, la situation continue à être sombre. Alors que la loi a été promulguée en 2014, avec pour objectif d'améliorer ces contextes-là. Déjà à l'époque, on parlait de 9% d'accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, malheureusement, 10 ans après la loi, on est à 7,4% selon le rapport annuel de 2023 de l'ARE. Et donc, on doit noter qu'on est en pleine régression. Alors, le forum avait justement pour objectif d'évaluer la mise en œuvre de la loi 10 ans après. Parce que c'est vrai, c'est depuis juin 2024 que la loi a 10 ans. Et aujourd'hui, on s'est dit que c'était une opportunité justement pour arriver à évaluer cette loi-là. Où est-ce qu'elle nous a amené? Est-ce que cette loi-là a été adaptée au contexte congolais? Est-ce qu'elle a permis le développement du secteur? Vous avez parlé de la libéralisation tout à l'heure. La libéralisation, la décentralisation énergétique et bien d'autres font partie des innovations de cette loi-là. Est-ce que cette libéralisation a été bien accueillie en RDC et comment est-ce que les choses se sont passées? Et donc, au-delà de cette évaluation, il était question de voir, ok, où est-ce qu'on en est avec la situation institutionnelle, le cadre institutionnel et réglementaire du secteur, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà ici, on constate qu'il y a plusieurs structures, il y a plusieurs institutions du secteur, il y a moins de coordination. Et dans un contexte où il y a moins de coordination entre structures du ministère, je parle de tout ce qu'il y a comme d'abord le secrétariat général lui-même, des structures comme la Commission nationale de l'énergie, l'unité de coordination et management des projets UCM, n'est-ce pas, des institutions nouvellement créées en CRARE. Il y a beaucoup de conflits. Certains pensent que voilà, les attributions de l'autre sont mes attributions. Et du coup, on est dans ce contexte où on ne peut pas voir les choses s'améliorer, n'est-ce pas? Le cadre réglementaire lui-même, il y a beaucoup de mesures d'application, certes, qui ont été mises en œuvre, mais il y en a encore d'autres qui restent à être promulguées, comme aussi il y a d'autres mesures qui doivent être améliorées, n'est-ce pas? Nous pouvons citer ici le cas de la problématique de la fiscalité qui fait partie justement du cadre réglementaire, d'abord du cadre légal lui-même, mais aussi les mesures d'application qui devront accompagner ce contexte-là. Aujourd'hui, la fiscalité est parmi le réel problème du secteur de l'énergie. Nous avons l'année passée publié un rapport qui a démontré que une entreprise qui opère dans le secteur de l'électricité en RDC en 2022 était obligée à payer au moins 83 taxes, impôts et redevances à différents niveaux, local, provincial, national, à plusieurs institutions, le ministère, n'est-ce pas, de l'environnement, les ministères de l'intérieur, les ministères télécommunications, etc. Presque toutes ces institutions là ont ponctionné au fait dans le secteur, dans la production de l'énergie. Alors, avec ce contexte là de plus de 80 taxes, comment voulez-vous que les choses avancent? Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est que le pays a passé plusieurs années sans produire d'électricité. Le tout récent rapport de l'ARE a démontré que voilà, le niveau de la production n'a pas dépassé 3000 mégawatts sur l'ensemble du pays. Alors que voilà, tout récemment, je pense lors du forum économique entre la Chine et la RDC, le ministre a parlé de plus de 5250 mégawatts de déficit qu'il y a au niveau national ou en RDC. C'est vrai que ce déficit-là est beaucoup plus calculé sur base de la demande des miniers, peut-être la petite demande à Kinshasa et dans certaines provinces. Donc vous allez vous rendre compte que voilà, le cadre institutionnel, le cadre légal n'est pas forcément adapté pour permettre la mise en œuvre de cette loi qui existe depuis quelques années.
Au-delà de ça, en même temps aussi, M. Emmanuel, on n'a pas dépouillé à la SNEL ses prérogatives de desservir ses abonnés, les ménages en énergie électrique. Donc la SNEL évolue à côté des entreprises privées parce que le secteur a été libéralisé, mais on constate sur le terrain que rien n'échange, ça n'évolue presque pas.
Effectivement, la SNEL, au fait, c'est aujourd'hui une entreprise commerciale. Elle n'est plus une entreprise étatique. Depuis, n'est-ce pas, ce processus de libéralisation du secteur et n'est-ce pas la réforme qui a commencé avec Copérep depuis quelques années, qui n'est pas finalisée. Et donc, dans le forum, pendant les discussions, on a constaté que un autre défaut, c'est la finalisation de la réforme de la SNEL. Il faut qu'on arrive justement à finaliser la réforme de la SNEL. Aujourd'hui, plusieurs années d'ailleurs, des entreprises comme Virunga, Sokodé ont eu du mal, par exemple, à se connecter au réseau national. Alors que jusqu'à aujourd'hui, c'est la SNEL qui maintient ou qui a à sa possession ce réseau-là. La loi devait justement arriver à définir clairement qu'est-ce que l'État garde pour sa souveraineté, qu'est-ce que les entreprises libéralisées telles que la SNEL garde comme infrastructure et comment est-ce que les choses devront se passer. Comment est-ce que la SNEL doit collaborer avec d'autres, parce que on est d'accord que la SNEL a existé avant toutes ces entreprises qui arrivent nouvellement de par la libéralisation. On peut se rendre compte que la SNEL certainement avait des grandes concessions, mais comment est-ce que cela est recalculé aujourd'hui? Quelles sont les concessions de la SNEL aujourd'hui? Pour la question justement de la gouvernance même de la SNEL, il y a beaucoup d'ingérences, n'est-ce pas, politiques, parce que déjà les administrateurs sont nommés par ordonnance. carrément, il y a cette influence politique. Est-ce qu'ils sont du domaine? Est-ce qu'ils peuvent, ils sont nommés justement pour faire avancer les choses?
Les défis de la SNEL.
Par contre, on s'est rendu compte récemment qu'ils étaient là, dans la plupart des cas, pour faire pression, pour, n'est-ce pas, faire engager leurs personnes, en fait, leurs candidats, des pressions financières, etc. Donc tout ça fait partie du problème. Mais aujourd'hui, il y a deux ou trois mois passés, je pense que c'était constaté dans la ville de Kinshasa qu'il y avait des améliorations en termes, n'est-ce pas, de la distribution d'énergie dans plusieurs quartiers. Voilà, il y avait une certaine stabilité, mais que nous sommes déjà en train de perdre aujourd'hui dans plusieurs quartiers. On se plaint que la situation devient de plus en plus chaotique, mais on invite la SNEL justement à se prendre en charge. La SNEL, c'est une entreprise commerciale, elle doit se mettre au niveau de la concurrence pour que, voilà, sa clientèle soit satisfaite, parce que de toute façon, déjà avec ce système de facturation forfaitaire, dans certains coins, les populations payent de factures pour lesquelles elles ne consomment pas.
Exactement.
Comme aussi, justement, d'autres qui ont de l'électricité, mais qui ne payent pas de factures. Mais il faut que tout ça soit géré, soit bien réglé. Donc, il y a, justement, cette nécessité d'améliorer la gouvernance au niveau de la SNEL. Pour revenir, justement, sur ce que je disais tout à l'heure du forum, au-delà de tout ce problème, n'est-ce pas, structurel dans le secteur, pratiquement ce problème, n'est-ce pas, de la SNEL et bien d'autres institutions, et le forum a servi de cadre pour aussi parler de la transition énergétique.
Exactement.
Parce que au fait, aujourd'hui déjà, comment est-ce qu'on gère la question de l'efficacité énergétique au niveau de la RDC? Aujourd'hui, parlant de la transition énergétique, comment est-ce qu'on gère la question de la cuisson en RDC? Déjà que voilà, c'est plutôt le Makala qui domine le mix énergétique. Congolais renseigne que plus de 90%, pratiquement 95% de l'énergie consommée dans le mix énergétique provient du bois énergie. Donc en même temps, on détruit les forêts. Pourtant, une des solutions que nous estimons être la plus durable, ce n'est pas cette cuisson électrique. Donc il faut améliorer l'accès à l'énergie.
Il faut enlever les courants dans les ménages,
voilà,
pour réduire la consommation des
aujourd'hui, il est prouvé qu'à Kinshasa, quand les populations, les ménages ont de l'électricité, ils utilisent moins le Makala.
Exactement.
Et c'est une solution plutôt durable. Et nous avons justement passé en revue toutes les stratégies qui sont en train d'être mises en place avec l'appui du PNUD et bien d'autres acteurs. Mais une chose qu'on a toujours fistigé, on va continuer à fistiger, c'est le fait de fixer la stratégie sur le gaz de pétrole liquéfié, le GPL qu'on appelle communément le saut gaz et les autres que le ménage consomme du jour au lendemain. Pour ces stratégies mises en place, on estime qu'il faut accélérer l'accès au GPL. Mais le GPL pour nous n'est pas forcément la solution idéale, c'est une solution transitoire. Il faut qu'il y ait une vision claire, moyen terme sur comment est-ce qu'on va arriver à gérer cela. Mais aussi, le forum était ce cadre qui a permis de discuter sur le projet Grand Inga et d'autres projets de grande envergure pour la RDC. Finalement, il est constaté que le pays n'a pas une vision claire de comment est-ce qu'elle doit exploiter ses ressources énergétiques, comment est-ce qu'elle doit exploiter ce projet Grand Inga. Et donc le projet Grand Inga est resté pendant plusieurs années à patiner ou carrément à suivre les vagues. Ça veut dire les investisseurs qui ont de moyens, qui viennent, c'est eux qui imposent comment est-ce que le projet doit évoluer. Et ça, c'est pas bon pour le pays, c'est un manque à gagner. Voilà, donc plusieurs sujets ont été abordés dans ce forum-là. Et c'était justement un cadre très intéressant parce qu'il a impliqué et les autorités, et les étudiants, et les scientifiques, et la société civile, et les entreprises, bien évidemment, tous, pour faire des constats majeurs que nous sommes en train d'évoquer ici.
Mais en même temps aussi, on constate, M. Emmanuel, que dans la partie est du pays, des entrepreneurs qui se sont lancés dans la distribution ou la production d'énergie électrique ont l'air de décoller par rapport à l'ouest. Dans les Katanga démembrés également, il y a quelques entrepreneurs qui s'essayent. Mais qu'est-ce qui fait que dans la partie ouest, il n'y a que la SNEL qui a les monopoles, et malheureusement aussi, la SNEL n'arrive pas à satisfaire à la demande des villes dans la partie ouest du pays?
Tout d'abord, il y a deux choses qu'il faut mentionner qui ont aussi fait partie des discussions au forum. C'est que premièrement, le pays n'a pas encore adopté ce que nous appelons la politique nationale de l'énergie. La deuxième des choses que le pays manque, ou carrément le deuxième instrument que manque le pays, c'est la planification énergétique. Si on a une politique, elle reprend la vision de comment est-ce que nous voulons gérer le secteur, de comment est-ce qu'on veut orienter le secteur. Ça, c'est une chose. Et la deuxième des choses, c'est que quand on a une vision claire, on a des objectifs clairs, on a des axes stratégiques bien définis, il nous faut avoir un instrument très important qui est la planification énergétique, qui nous présente des scénarios, qui nous projette
dans
de un certain
à court terme,
nombre d'années,
à long terme,
et qui donne des possibilités à tout celui qui veut vraiment investir dans le secteur de voir clairement comment est-ce qu'il faut s'engager. Mais ici, à Kinshasa ou dans la partie ouest comme à travers toute la République, on n'a pas de planification nationale, on n'a pas de planification provinciale. Il est vrai que au niveau de l'Est, on voit quelques projets avancés, mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ces investisseurs viennent parce que il y a de l'intérêt, il y a de la garantie. On est dans le Grand Katanga, il y a le minier qui sont là.
Exactement.
Donc ils visent les miniers tout de suite. On est à l'est du pays où on a des projets qui a commencé depuis, par exemple le projet Virunga. Le projet Virunga, c'est un projet qui vient au départ pour résoudre le problème de conflit qu'il y a entre le parc et les ménages, en fait, la pression qu'il y a sur le parc. Et c'est des subventions qui ont été accordées. Si on voit le projet Nourou qui a suivi Virunga, c'est aussi un projet, c'est vrai commercial, mais c'est un projet qui tient parce qu'il y a des subventions. Mais la grande problématique, c'est on n'a pas de vision, on n'a pas de planification et on manque de capacité.
Monsieur Manuel, dans cette émission, nous donnons également la parole aux auditeurs, à la population. Donc, nous allons partir au standard. Il y a déjà des auditeurs qui attendent, donc on va leur donner la parole. Puis on va retourner aussi au studio pour continuer notre entretien. Quels sont les facteurs, hein? Quels sont les facteurs qui freinent l'augmentation du taux d'accès au courant électrique en RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941.
Connaissez-vous la monkeypox? C'est une maladie virale contagieuse qui se transmet principalement par contact direct de l'animal trouvé mort ou malade avec ou sans signe de monkeypox à la personne non malade. Entre les hommes, la transmission de la monkeypox s'est faite à travers des lésions, voire plaies de liquide organique comme la sueur, des gouttelettes respiratoires, des objets souillés par des malades de monkeypox et le rapport sexuel avec une personne malade de monkeypox. Pour nous protéger contre la monkeypox, il faut éviter de toucher les animaux malades ou trouver morts sans cause, éviter tout contact physique ou sexuel avec une personne malade de monkeypox et éviter tout contact avec les objets souillés par des malades de monkeypox.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler gratuitement au 151 ou adressez-vous directement à un prestataire de santé ou à un agent de santé communautaire.
Le premier auditeur, il appelle depuis la ville de Bandundu. Son nom c'est Malonga. Malonga, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
C'est pas Malonga, c'est
Monsieur Sokoa
à
Kindu. Monsieur Sokoa, ok, je rectifie. Merci beaucoup. Vous êtes à Kindu dans les Maniema. On vous donne la parole.
Bonjour Tati, bonjour aussi à l'invité. La première des choses, M. Tati, ici à Kindu, la radio Capi est 24 sur 24, mais il y a plusieurs de l'espace, on ne sait pas. Maintenant, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, moi je voulais demander donc à l'invité, pourquoi la centrale Inga alimente l'Afrique du Sud? Alors que dans notre pays, le courant n'est pas stable. Quelle convention que l'Afrique du Sud avait fait avec notre pays pour que l'Afrique du Sud ait aussi des énergies. Ici à Kindu, on a une centrale hydroélectrique.
Allô, Monsieur Sokoa. Malheureusement, la connexion s'est dégradée avec ville de Kindu dans les Maniema. Donc, on a écouté la première question de Monsieur Isokoa. On va tâcher de rappeler Monsieur Isokoa pour qu'il finisse son idée. Nous passons au deuxième auditeur. Hein. Lui, il est à Lubumbashi. Il s'appelle Patrick Odia. Bonjour maître et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Dodi, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, c'est un bon sujet lié au développement du peuple congolais, mais aussi de la RDC en général. Et surtout que les premiers besoins de la population ne sont autres qu'à manger, la nourriture et l'accès à l'électricité. La première des choses qui empêche à ce que l'accès à l'électricité soit limité à une catégorie de personnes, notamment les députés et ministres, c'est d'abord la mauvaise gouvernance ou la mauvaise volonté des gouverneurs ou des décideurs. C'est la première des choses. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand vous arrivez à Kananga, par exemple, il y a la chute Katende qui a la capacité d'alimenter presque l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce qui manque pour que cette chute
puisse se matérialiser?
Nous avons fait des émissions avec la BCECO, nous avons fait également les émissions avec les DG des programmes sino-congolais entre la Chine et la RDC, pour que les fonds issus de 7 milliards soient un peu financés également pour la chute Katende, afin que ça puisse alimenter toute la province. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des études, et ce sont des millions qui ont été dépensés, rien. La mauvaise gouvernance et la mauvaise volonté. Deuxièmement également, la deuxième mauvaise volonté qui s'exprime en ce que la chute Mbombo, qui est en train d'être construite, notamment à Kananga et dans d'autres provinces, vous apprenez du jour au lendemain qu'il y a eu des détournements. Mmh. Alors que la première ministre ou le ministre a lancé les travaux, mais 8 mois, 9 mois, il n'y a pas toujours les travaux. Il y a des arrêts des travaux. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à là? C'est la question qu'on se pose. La mauvaise gouvernance de ces régimes et des décideurs politiques, je pense que nous aurions souhaité à ce que les DG de la SNL, M. Fabrice Lucende, même aussi également le ministre de l'électricité hydroélectrique, le professeur, c'est pas moi son nom, soient invités également prochainement à cette émission pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'il faut concrètement. Mais aussi, la deuxième chose qui freine, c'est la mauvaise sensibilisation, la mauvaise mentalité des peuples congolais.
Maître Patrick Odia, je sais que je sais concernant la chute Mbombo du Kasaï central à Kananga, ce projet est au stade de la recherche. Au fait, on est en train de réunir les éléments d'information pour savoir les potentialités qui existent dans ces chutes hein, avant de lancer les travaux proprement dites évolués.
Oui, je dis ça. Oui, merci, c'est bien. Mais nous reviendrons encore, tu es encore là, tu es un ancien de cette radio. Nous reviendrons encore là pour examiner cette question, même 2 ans après. Vous allez encore me dire que non, les études sont en train d'être faites. Tenez bon, ça je reviendrai. Mais nous avançons. Aussi la deuxième chose également, c'est la mauvaise mentalité des peuples congolais. Vous avez un peuple qui veut le développement et son contraire, qui est en train de voler les câbles. On met les câbles aujourd'hui, la même nuit, vous trouvez les gens qui sont en train de voler les câbles électriques. Oui, je voudrais citer que la mauvaise gouvernance doit cesser, mais aussi la sensibilisation, la mobilisation de la société civile pour que les peuples congolais puissent également s'approprier. Il y a des dimensions spirituelles, traditionnelles, coutumières, qu'il ne faudrait pas négliger dans la construction de ces pays, notamment pour la chute Katende, notamment à Tiala, à Mujimai, notamment dans d'autres provinces également. Mais aussi les sociétés minières consomment énormément, elles doivent contribuer à ce qu'il y ait des sous-stations et des stations et les sous-stations également pour qu'il y ait l'électricité partout en République démocratique du Congo. Vous pouvez vous imaginer que j'étais au Gabon, j'arrive là, on me dit que les courants qui fonctionnent au Gabon, c'était les courants qui provenaient de la RDC. Mais quand je me rappelle que ma grand-mère au village, à Tchilenge, n'a pas de courant, mais au Gabon, dans un petit village, il y avait un courant qui provenait de la RDC. C'est de la mauvaise gouvernance, c'est de la haine. Et ça fait mal. Nous en avons marre. Qu'est-ce que devons-nous faire?
Merci beaucoup. On a écouté les fonds de votre pensée, monsieur Maître Patrick Odia. Excellente journée au niveau de la ville de Lubumbashi. Notre invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Maître Yves Mouyaya, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour monsieur. Bonjour la radio Okapi. Je salue aussi l'invité.
Voilà, on est en train de tabler sur le facteur qui freine l'augmentation du taux d'accès à l'énergie électrique en RDC. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Évidemment, je crois que l'accès à l'électricité aujourd'hui est un droit fondamental pour tout citoyen dans la vie moderne ici. On ne peut pas vivre sans électricité, ça devient extrêmement difficile, surtout dans les cités, donc ça devient impossible qu'on puisse vivre sans électricité. Voilà pourquoi il a été décidé de la libéralisation de la SNEL, du secteur plutôt d'électricité depuis 2008. Mais ça n'a pas fonctionné. Bon, maintenant, par rapport à l'environnement actuellement, je pense que Et il aurait fallu beaucoup plus donner de moyens à Inga, parce que la SNEL, au niveau de Inga, a la capacité de distribuer ou de donner de l'électricité à des millions de Congolais.
Oui, mais monsieur Yves, les projets, monsieur Yves, les projets Grand Inga, ça fait plus de 15, 10, 15 ans, on en parle, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Les investisseurs qui arrivent, qui retournent, on lance des appels d'offres, on a lancé des appels d'offres autant de fois, les projets n'évoluent pas. C'est ça le problème aussi.
Effectivement, vous savez, dans notre pays fait face à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous sommes au cœur de beaucoup de dangers. Et Inga joue un grand rôle par rapport à l'électricité même de l'Afrique. On ne peut pas décider aussi de la libération sauvage. Donc je crois que il faudra donner des moyens et les populations doivent aussi faire pression pour que Inga puisse augmenter cette capacité à la distribution d'électricité sur l'ensemble du pays. Et voir aussi comment on doit évoluer avec des barrages tels que le Katendela qui date de 1960. Hein, ça peut être aujourd'hui, les projets datent de 1960. Mmh. J'ai connu le ministre à cette époque qui était chargé de Katende, mais ça n'a pas toujours évolué. C'est pas pour quelle raison. Je crois que c'est un projet du gouvernement. Il s'agit maintenant de faire pression seulement pour que ce genre de barrages puissent être terminés afin de l'électricité au Congo. Parce que vous savez, nous voulons que votre pays puisse être développé. Mais comment nous allons développer le pays sans avoir l'électricité? Le développement, ce n'est pas à Kinshasa. Je crois que c'est dans l'arrière-pays là-bas qu'il faut multiplier ce genre de barrages pour attirer les... Parce que l'investisseur ne peut pas venir là où l'accès à l'électricité aussi est difficile. Donc c'est tellement important, mais nous ne pouvons pas aussi décider de la libéralisation sauvage, étant donné que nous sommes milliers au centre ou au cœur de beaucoup de dangers sur le plan international.
Oui, oui, monsieur Yves, mais le secteur a déjà été libéralisé depuis 2014, hein, donc on ne va plus reculer, donc voilà.
Effectivement, j'ai suivi l'invité. Il y a des mesures d'application. Je crois que le gouvernement, c'est un gouvernement souverain. Même dans sa manière de faire, je crois qu'il peut y avoir aussi une certaine réticence par rapport à cette libéralisation. On ne peut pas libéraliser n'importe comment. Nous acceptons ça. Les investisseurs peuvent venir, mais ce n'est pas à n'importe quelle condition. Donc, la priorité doit être donnée à la SNEL, qui est beaucoup plus congolaise, pour qu'on puisse donner l'électricité à la plupart ou la grande majorité des Congolais, même si les autres investisseurs peuvent venir, mais dans un domaine concurrentiel, ils pourront voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler aussi. La fiscalité dont il est en train de parler, vous savez, notre pays aujourd'hui a beaucoup plus besoin de moyens. Hein. Le budget ne convient pas par rapport aux défis que nous avons. Alors si on doit encore procéder à des exonérations, ne plus taxer tout ça, donc ça pose énormément de problèmes. Voilà pourquoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yves. Hein. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. On a compris le fond de votre pensée. L'invité aura le temps de donner des détails hein, sur tes préoccupations. Nous restons à Kinshasa pour donner la parole à Maître Omar. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service. On vous donne la parole directement, Maître.
Je merci de la parole. Le sujet est intéressant. Je voudrais déjà, dès les liminaires de mon intervention, faire deux mises au point. La première, c'est que l'accès à l'électricité est un indicateur de développement. On reconnaît un pays développé si la majorité de sa population a accès au courant électrique parmi tant d'autres éléments. Deuxième recadrage, c'est par rapport à ce que l'invité a dit. La SNEL demeure l'entreprise étatique. Lorsque l'État intervient dans les secteurs économiques, il intervient soit comme régulateur en fixant des règles qui vont réguler l'économie, il peut aussi intervenir comme entrepreneur en créant des entreprises pour apporter des solutions étatiques. Même si aujourd'hui elles ont la forme des sociétés commerciales, elles demeurent des entreprises étatiques, c'est-à-dire qui appartiennent à l'État. D'ailleurs, je l'informe, dans la SNEL, l'État est l'actionnaire unique. Et puis, selon la loi 17 juillet 2008 qui régit les entreprises publiques, on précise que l'entreprise publique est celle dans laquelle l'État a la totalité des actions et celle qui appartient à l'État. Donc, même si elles ont la forme des sociétés commerciales, et demeurent les entreprises de l'État.
Merci beaucoup pour cet éclairage. On avance, alors on évolue. Allez-y.
Merci, M. Tati. Par rapport à votre émission, les causes, comme vous l'avez énumérées, sont là, moi, je pense, au-delà de la mauvaise gouvernance que vous avez évoquée, il y a un manque de volonté criant, mais il y a aussi la léthargie étatique. Beaucoup d'entreprises de l'État, beaucoup de maisons de l'État ne payent pas. L'État a des immeubles, l'État a des maisons, l'État, les entreprises, parmi les gens qui ne payent pas la SNEL, c'est les entreprises publiques ou encore les services publics. C'est parmi les causes qui font que la SNEL n'est pas performante. Autre cause, c'est les coûts élevés du privé. Nous avons applaudi la libéralisation parce que la SNEL n'a plus les monopoles. Mais il y a un problème sérieux, monsieur Tati. Pour accéder au courant à travers le privé, il faut avoir beaucoup de moyens. Ces privés viennent de loin, ils investissent des capitaux. Quand ils vous fournissent les, ils vous fournissent les courants, ils doivent avoir le bénéfice. Autre chose, ils sont victimes de tracasseries tant administratives que fiscales. Face à ces fléaux, ils mettent un coût élevé, ce qui fait que malgré la libéralisation, la population n'arrive pas à payer. Donc, au-delà de la bonne gouvernance qui doit être faite, la volonté politique, parce qu'avec la volonté, on peut, il faut aussi que les entreprises de l'État, les services de l'État, les ministères, les maisons appartenant à l'État puissent apprendre à payer. Beaucoup de députés, sénateurs, ministres ne payent pas la SNEL. Et enfin, il faut que le privé qui a initié ces marchés, qui est intervenu, soit dans des bonnes conditions, les climats des affaires, que l'impôt imposé à eux soit quand même allégé, que ceux qui tracassent les privés arrêtent, parce que plus qu'ils sont tracassés, plus qu'ils ont des investissements capitaux élevés, ils vont élever les courants. Voilà ma petite contribution. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Omar. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. On retourne à Kindu. Sokoa est de nouveau en ligne. Et Sokoa, on vous donne la parole. Allez-y rapidement. On n'a plus assez de temps. Les temps s'égrènent vite. Allez-y.
Ok, merci Tati. Merci de m'avoir encore donné la parole. Moi, je disais ceci. Pourquoi la centrale hydroélectrique Inga entrait donc d'alimenter l'Afrique du Sud par rapport à notre pays? Pourquoi la Fille du Sud est en train donc d'approfiter notre courant, or que le Congo lui-même n'en profite pas? Ici à Kindu, il y a toujours des délestages. Au moment où je vous parle, ça fait 5 mois, il n'y a pas de courant. Alors que nous avons une centrale hydroélectrique à partir du territoire de Pangui, à Kalima, mais cette centrale hydroélectrique ne travaille pas. Donc je ne sais pas qu'est-ce que les agents donc de SNEL est en train donc de faire. Mais une fois seulement, le courant peut venir aujourd'hui, et le même jour, les agents de SNEL venir demander de l'argent. Alors, je ne sais pas, l'État aussi doit prendre aussi ses responsabilités pour régulariser, je sens donc les problèmes du courant. Voilà ma contribution, M. Tati. Bonne journée et bonne journée aussi à l'invité.
Merci beaucoup, excellente journée également à vous, hein, à Kindu. Monsieur Manuel, vous avez écouté les auditeurs, comment répondez-vous? On commence par Isokoa, qui parle du transfert du courant électrique en Afrique du Sud, alors que la population congolaise n'a pas de courant. Moi, je sais qu'à ma connaissance, c'était autour des années 90 que le gouvernement avait initié ces projets-là, des transferts du courant dans certains pays, notamment l'Afrique du Sud. Je ne sais pas comment ça évolue à ces jours.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Tati, merci aux auditeurs qui, n'est-ce pas, ont prouvé qu'ils sont plutôt intéressés par les sujets. Merci pour ça. Je pense que ça doit être encore plus que cela, parce que la problématique d'accès à l'énergie ou à l'électricité doit nous préoccuper au plus haut niveau. Quelqu'un l'a dit ici, effectivement, l'électricité fait partie justement de l'accès à l'électricité. Fait partie des indicateurs de développement. Au-delà du fait que notre constitution l'a consacré comme un droit pour les populations congolaises. Mais aussi longtemps qu'on va demeurer sans accès à l'électricité, c'est nos droits qui sont violés d'une part, et d'autre part, on sera justement, on ne peut pas atteindre le niveau de développement voulu. Et donc, je suis d'accord avec cette affirmation. Mais je reviens pour la question sur Inga. Je pense que l'auditeur qui a posé cette question, comme aussi tout le monde qui continue à penser que la RDC exporte son électricité, je pense que c'est une histoire ancienne, malheureusement.
Oui.
Depuis plusieurs années maintenant, la RDC importe d'électricité. On le faisait avec le Congo-Brazzaville il y a quelques années, et actuellement on est en train d'importer de l'électricité de la Zambie. On parle de plus ou moins 200 mégawatts qui viennent pour soutenir, n'est-ce pas, les activités
répondre
minières.
Répondre un tout petit peu à la demande des miniers.
Des miniers, justement, parce qu'il y a un grand déficit.
Les
miniers ont besoin d'au moins 3000 mégawatts aujourd'hui, et donc c'est beaucoup d'énergie, et ils doivent trouver des solutions. Et parmi les solutions, c'est qu'ils importent de l'électricité. Donc, c'est décevant, justement, pour ceux qui vont apprendre qu'on n'exporte plus, mais on importe le grand Congo qui autrefois justement
exporter
pouvait,
le courant. Aujourd'hui,
pouvait faire rêver
c'est le Congo
notre
qui...
pays. Mais aujourd'hui, nous voulons justement importer de partout là-bas, tout ce monde, l'Angola, le Rwanda, récemment d'ailleurs, pour votre information, on était prêt à prendre de l'électricité du Rwanda. Donc, pour contribuer justement au soutenir l'alimentation du côté de l'Est. Donc, Inga n'est plus capable d'exporter. D'ailleurs, pour votre information, aujourd'hui, Inga 1, Inga 2 ne produit plus au-delà de 1500 mégawatts. On est en deçà. Et donc, déjà sur ce nombre de mégawatts, on peut voir que le Grand Katanga, avec ses industries, prend généralement autour de 600 mégawatts. La ville de Kinshasa est autour de 500 mégawatts, 500-600 mégawatts, quand on atteint le pic. Le Congo central, Bandundu, peut prendre jusque peut-être à moins de 100 mégawatts. C'est comme ça que l'électricité de Inga est répartie aujourd'hui. Bien évidemment, pas seulement Inga, mais il faut voir aussi Zongo 1 et 2 qui sont de l'autre côté. Alors, dans la même logique, quelqu'un disait qu'il faut donner de moyens à Inga. Aujourd'hui, oui, il faut donner de moyens pour qu'on réhabilite Inga 1 et Inga 2. Il faut donner des moyens pour qu'on réhabilite
Zongo. Arriver également à matérialiser les projets Grand Inga.
Grand Inga, effectivement, mais il faut avoir une vision qui répond aux préoccupations majeures.
Exactement, ça c'est la recommandation
booste.
De Monsieur Yves de Kinshasa, mais également il y a Kise Osoko qui a parlé d'une centrale à l'état d'abandon à Kalima. Il y a des centrales
mais
comme ça qui...
Corap a publié un rapport il y a quelques années, je sais plus en 2017 ou 18, où il a été démontré qu'il y avait plus de 70 barrages qui sont restés à l'abandon. Et jusqu'aujourd'hui, justement, la plupart de ces barrages sont à l'abandon, alors que c'est de l'énergie qu'on peut récupérer. Il y a dans plusieurs provinces ici, il y a des micro-barrages, etc., qui sont restés à l'abandon. Mais c'est comme ça qu'on dit, quelles sont les priorités aujourd'hui? Quelles sont les priorités? Quelle est la politique qui est mise en place pour le secteur, de sorte qu'on voie déjà les ressources que nous avons, le potentiel que nous avons, les barrages qui sont construits? Comment est-ce qu'on les maintient pour que ça couvre, n'infisque que la petite demande qui existe? Et comment on se projette en termes, n'est-ce pas, de production d'énergie? Il parlait des Inga. Oui, on peut mettre des moyens dans Inga aujourd'hui, mais ce qu'il faut noter de Inga, c'est que, d'abord, un, Inga demande des milliards. S'il faut construire le grand Inga, ou déjà la première phase de Inga, on parlait depuis plusieurs années qu'on avait besoin d'au moins 14 milliards de dollars. Est-ce que le pays a le moyen? Ok, on peut parler du PPP, mais tout à l'heure on fustigeait le fait que c'est plutôt les privés qui arrivent avec des moyens qui veulent imposer comment est-ce que Inga doit évoluer. Quelle est la vision congolaise? Quelle est la stratégie congolaise? Par contre, ce qu'il faut qu'on encourage davantage, c'est qu'il faut qu'on mette assez de moyens dans la loi des finances, mais aussi qu'on disponibilise ces moyens pour construire un secteur décentralisé.
Oui, mais en même temps,
qu'est-ce
aussi,
que je veux dire par là?
L'auditeur de Lumbashi, maître Patrick Odia, il a fait allusion au projet de Katende qui reste aussi un projet à dormir debout.
Oui, mais à Kakobo, là, il y a ces autres projets de, n'est-ce pas, de Mbombo, etc. Il y a plusieurs projets comme ça qui sont restés sans être achevés. Tout ça fait partie de la stratégie, de la planification du départ, je le disais. Mais je revenais pour dire qu'aujourd'hui, le vrai besoin, déjà si on a une politique, une planification assise qui nous projette, qui nous prévient de ce qu'il faut faire, la grande chose que le gouvernement congolais doit faire, c'est de financer la production de l'énergie. C'est de financer la construction des micro-centrales hydroélectriques. C'est de financer le travail que Anser est en train de faire en milieu rural. C'est des petits projets qui ne demandent pas beaucoup de moyens, mais qui sont très efficaces avec un impact considérable. C'est-à-dire, si on développait des micro-barrages à travers le pays, déjà l'Atlas sur les énergies renouvelables nous parle de plus de 800 sites hydroélectriques à travers le pays. Aujourd'hui, je pense que hier même, le ministre l'a affirmé qu'on avait pratiquement 5,5 mégawatts justement par mètre carré en termes de potentiel solaire qu'il faut développer.
Exactement.
Donc ce sont des projets qui coûtent moins cher, qui peuvent se développer très rapidement avec un impact économique louable et très direct au niveau local. Parce que un des grands problèmes, c'est que quelqu'un aussi l'a évoqué, mais pourquoi on ne va que à l'Est et autres, pas dans le Grand Équateur, pas dans le Grand Bandundu, pas dans des provinces comme le Kasaï qui sont restées longtemps? C'est que les investisseurs ont besoin de garanties. quand ils viennent dans le banc d'Undu, quelle est cette ressource, n'est-ce pas, naturelle ou carrément, quelle est cette garantie qu'ils ont qu'ils vont rentrer dans les investissements. Par contre, le micro-projet, des projets qui se développent vite, permet aux communautés de développer des capacités financières
importantes.
Et ça sera justement
démonter
la garantie.
Démonter des petites unités de production
ça sera
qui leur permettront d'avoir le pouvoir d'achat et de payer également le courant. Il y a également, il y a qui sait, Maître Omar qui a, et Yves Mouyaya, je pense, leur préoccupation se recoupe. Maître Omar qui a dit que l'État lui-même aussi n'honore pas les factures. Il y a certains officiels qui ne payent pas les factures des consommations du courant électrique. Mais il y a également l'auditeur qui a fait allusion à l'incivisme, la population vole des câbles, ça on l'a très couramment au Katanga, à Kinshasa et autres, dans d'autres villes.
Non, c'est un grand problème. Déjà que je pense que la SNEL a décrié plusieurs fois récemment, ils étaient autour, le gouvernement devait plus de 200 millions de dollars à la SNEL, je pense, à la Régie des Eaux également, presque la même chose. D'accord, effectivement, si on veut que le secteur tourne, il faut donner des moyens à la
Exactement.
SNEL. Il faut payer les factures. De la même façon que les ménages qui ont accès à l'électricité, qui ne payent pas, doivent payer, le gouvernement prend sur le 500 mégawatts, plus ou moins, qu'on peut trouver sur la ville de Kinshasa, le gouvernement ou carrément les institutions et toutes ces structures plutôt sociaux prises en charge par le gouvernement consomment au moins 300 mégawatts. Vous comprenez que c'est énorme. Toutes ces institutions, le Parlement, les camps, les hôpitaux, mais plus de 300,
les écoles,
plus
de la moitié
de l'énergie disponible dans une province et par la suite, vous ne payez pas. Comment on va faire tourner l'entreprise? Comment on va maintenir les infrastructures? Ça, c'est un grand problème. On est d'accord avec lui et on fustige cela. Voilà, la question de la sensibilisation de la population. Mais aider la population à développer des activités économiques. Et nous pensons aujourd'hui que l'électricité ou carrément l'énergie comme facteur de développement, comme indicateur de développement, comme il le disait, peut être justement cet élément qui donne de moyens aux communautés, et parce qu'on a de moyens, on ne va pas aller voler des câbles.
Oui, on retourne au standard, M. Emmanuel, il y a d'autres auditeurs qui attendent, on leur donne la parole, et puis nous allons revenir à vous ici au studio. Ismaël Mumpoyi, vous nous appelez depuis la ville de Lubumbashi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati Mapoko, bonjour à l'invité.
On vous donne la parole, les temps s'égrènent vite, allez-y.
Oui. En train de jouer, je pense que on veut augmenter la capacité électrique en RDC. Mais la question que je pose à l'invité, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour augmenter cette capacité? Parce qu'on nous a dit à telle année, on va avoir autant. Mais vu ce qui se passe, je pense que les peuples congolais étaient moins et ceux qui utilisaient les courants électriques étaient moins. Vu l'explosion démographique. Il est difficile un peu de satisfaire tout le monde. Mais comme il a précité un peu les mini-barrages et consorts là, c'est ça parmi les solutions. Mais pourquoi nous avons de pertes et on exportait, mais maintenant nous importons? Comme il vient de dire, l'incivisme des gens de sectionner les câbles électriques, les grands problèmes. Les sociétés industrielles, ce sont ceux qui sont privilégiés plutôt que la population. Et cette population a besoin de cela. Soit investir dans les courants solaires. C'est comme présentement, si vous remarquez, la SNEL, c'est comme si cette société nationale-là n'existait pas. Elle a emboîté les pas comme d'autres régies des eaux, la SNCC. C'est la même chose. Maintenant, pour la SNEL, elle pouvait faire multiplier des transformateurs, créer des voies de transport faciles en vue d'atteindre les gens. Et là où il y a des failles, il récolte d'argent. À leurs clients qui n'envoient, qui ne servent même pas normalement les courants. Le mieux à faire, c'est chercher un autre mécanisme en vue d'approvisionner les gens plutôt que de se plaindre. C'est ça. Vous voyez que les courants témoignent.
Merci beaucoup. La liaison s'est dégradée avec la ville de Lubumbashi, mais on a compris les fonds de la pensée d'Ismaël Mumpoyi. Excellente journée à Lubumbashi. Nous retournons ici à Kinshasa pour donner la parole à Monsieur Marcel. Roger Marcel, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour Monsieur Capi et bonjour à notre invité. Bonjour à tous
ceux qui sont connectés à la On vous donne la parole, moi, allez-y.
C'est un constat. Oui, d'accord, merci de m'avoir accordé la parole. C'est un constat, parce que lorsque depuis que le secteur a été libéré, la plupart dans la vie de Kinshasa, je n'ai jamais constaté même les gens qui sont vraiment dans ces domaines. Je vois seulement que la semaine qui découvre vraiment le courant. Mais si vous allez dans d'autres provinces comme à l'est du pays ou au niveau du Douma, ce sont les individus qui même qui donnent le courant partout là, les gens se retrouvent par rapport ici à Kinshasa. Moi, je voudrais demander à notre invité, mais pourquoi on peut dire que c'est l'État qui a failli dans sa mission ou bien c'est la CNEL. En fait, si vous regardez même à Kinshasa, il y a même dans des communes, il y a même dans des coins, si vous ne verrez jamais le fil de la CNEL, vous demandez, nous sommes dans la capitale ou nous sommes ailleurs. Si vous regardez, vous parcourez presque dans toutes les provinces de la RDC. Vous allez voir, il y a même dans des provinces là où le courant n'existe pas aujourd'hui. Si vous allez au niveau du Qatar là, vous allez acheter même une bouteille d'eau qu'on achète ici à Kinshasa à 500 francs, c'est à 1500. Les gens achètent même de la bière, même à plus de 8000, 9000 à 10000 fois. Si vous allez au niveau des musulmans, même à Qatar central, on se demande si l'État quand même était dans ses besoins. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer comme ça. Et si vous venez même dans ma commune où je reste, parfois vous utilisez pendant la semaine, c'est des fois où vous pouvez utiliser le courant. Mais de d'autres jours ici, il n'y a pas le courant. Mais à la fin de chaque mois, vous êtes toujours obligé de payer toujours le facture. Et je demande, au nom où vraiment, je pense que l'État quand même pouvait avoir des mesures qui puissent quand même laisser la semaine, qui puissent quand même gérer les choses de sa manière. Parce que de toute façon, si l'État intervient toujours, en prenant toujours des choses au niveau de la CNEL, je pense qu'on ne pourra pas isoler. Vous avez dit avec les déclarations du ministre de l'énergie, il a dit nous, avec l'État, on pourra envisager aller dans d'autres pays pour qu'on puisse aller à prendre du courant. Aussi longtemps en République démocratique du Congo, on a des rivières, on a des fleuves, pourquoi pas on ne les traite pas, on envisage d'aller vers d'autres pays pour qu'ils puissent nous aider avec l'énergie.
Merci beaucoup pour tes préoccupations. Excellente journée. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Emmanuel, au fait, la préoccupation d'Ismaël fait l'objet des recommandations qui ont été formulées au cours du forum qui a été organisé par la CORAP, faisant en fait l'autopsie de l'accès à l'énergie électrique en RDC.
Effectivement. Donc, ce qu'on peut, noter de sa question, voilà pourquoi les choses, il n'y a pas augmentation de capacité. Donc effectivement, je l'ai dit, parce qu'on ne met pas de l'intérêt, parce qu'on ne met pas de moyens pour produire. Donc l'augmentation de la capacité ne fonctionne que de la production. Pour la question de la libéralisation, très rapidement, le secteur est libéralisé, mais une chose que je disais ici, peut-être que je n'ai pas beaucoup approfondi, c'est la question de capacité des acteurs. Parce que le secteur est décentralisé aussi au-delà de la libéralisation.
Exactement.
C'est-à-dire les gouverneurs, les chefs des territoires, voilà, au niveau local, peuvent aussi prendre des initiatives, peuvent initier, peuvent donner certaines autorisations pour certains projets à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont formés? Pour la ville de Kinshasa, on a vu que toutes ces années sont passées sans que l'on mette l'accent sur l'arrivée d'autres. Je vois que de plus en plus le nouveau gouverneur parle du secteur, veut, n'est-ce pas, cette diversification, mais je pense qu'on a un besoin d'un programme de renforcement de capacité nationale sur la question de la libéralisation du secteur, sur la question de la décentralisation et démontrer aux gens comment est-ce que les choses doivent fonctionner. Peut-être que pour revenir rapidement, justement par rapport à quelque chose qui était dit ou carrément deux aspects, effectivement pour que les choses marchent, au-delà du fait qu'il faut mettre beaucoup de moyens, il faut améliorer le climat des affaires. Je le disais, le climat des affaires pour le secteur électricité n'est pas attrayant, ça ne peut pas motiver des investisseurs à venir mettre leurs moyens, d'une part, et d'autre part il faut que le gouvernement puisse privilégier, mettre en place des stratégies de sorte à privilégier de coins qui ont toujours été défavorisés en termes d'accès à l'électricité. Ça, c'est très important. Et pour finir par rapport aux préoccupations, avant que peut-être je n'aborde quelques recommandations.
Bah, il faut déjà y aller parce que les temps s'égrènent vite, on n'a plus assez de temps.
La SNEL, quelqu'un disait que c'est une entreprise étatique. La SNEL est une entreprise commerciale, ça il faut noter. Il est évident que jusque-là, l'État est actionnaire majoritaire, mais le capital au fait de la SNEL sont ouverts à d'autres investisseurs. Le problème c'est que la mauvaise gouvernance qui a longtemps encadré la SNEL ou la société et les secteurs n'attire pas
les investisseurs à venir mettre des capitaux.
Alors, une des recommandations importantes ou parmi les recommandations importantes du forum, c'est que on a demandé au chef de l'État de créer un véritable état d'urgence pour le secteur de l'électricité.
Ça veut dire
quoi
ça?
on parle de priorité, mais c'est vrai qu'on reste dans le slogan, on reste dans les intentions, mais on voudrait que l'État, le chef de l'État puisse décréter cet état d'urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on parlait des taxes tout à l'heure. Il faut que sur une période bien déterminée, que n'est-ce pas, certaines taxes soient allégées, hein, le cadre fiscal soit allégé
afin d'encourager
les investisseurs à venir. Ça ne prendra pas très longtemps, mais on en a besoin.
Pour un délai donné, un état d'urgence, 6 mois, une année.
Un état d'urgence veut que la vision soit clairement définie, la planification soit clairement faite, de sorte que l'on sache ce qu'on doit faire sur un certain nombre d'années qui est bien défini. Et donc ces mesures-là devront aussi permettre à ce que, pour le secteur de l'énergie, dans cette possibilité de mettre en place cet état d'urgence, qu'on mette assez de moyens pour stimuler tous les compartiments du secteur qui permettra à ce que, voilà, les investissements viennent, qui permettra à ce que des financements où le gouvernement doit financer, qu'il le fasse, qui permettra à ce que les gens soient renforcés en capacité, de sorte qu'ils soient des bons managers pour le secteur de l'énergie. Au-delà de ça, on voudrait que le chef de l'État s'investisse lui-même pour qu'on réussisse la réforme du secteur de l'électricité. La loi de 2014 aujourd'hui a démontré quelques limites, elle nécessite ou elle a besoin de quelques améliorations. Et donc nous recommandons au chef de l'État et au gouvernement de mettre en place une commission d'experts qui pourra réfléchir sur comment on adapte la loi aux réalités, parce que les entreprises se plaignent, les institutions se plaignent, la société civile se plaint, et tout le monde se plaint sur cette loi-là, et des choses qu'il faut améliorer. Donc il faut des experts pour essayer de travailler de sorte à améliorer. Et finalement, il y en a plusieurs, mais ici je voudrais aussi parler de cette nécessité d'améliorer le cadre institutionnel. On parlait ici de tous les chevauchements qui existent, et cela est à la base justement de beaucoup de problèmes que nous vivons. Donc plusieurs recommandations ont été formulées. Les gens qui veulent en savoir plus peuvent aller sur la page Facebook de Corap ou carrément sur le site de Corap, www.corap.rdc.org, pour avoir plus d'informations, et nous sommes ouverts aux discussions.
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur de la Corap, d'avoir été avec nous. Excellente journée et à la prochaine occasion.
Merci.